Bonjour. Nous allons faire une lecture dans le psaume 8, au verset 3. Seigneur Jésus, je te prie pour que ta parole trouve le chemin des cœurs de chacun et de chacune. Merci, mon Dieu. Amen. Psaume 8, verset 3. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Dimanche passé, je vous parlais de l'importance de comprendre ce qu'est l'expiation. Et je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit dimanche passé, je veux simplement continuer cette méditation. Je crois absolument que l'acceptation de l'expiation de notre Sauveur peut augmenter notre foi. L'acceptation de l'expiation de notre Sauveur peut nous donner le courage de nous affranchir, de nous libérer de la mauvaise conception de ce que c'est que la perfection et le perfectionnement. Il n'y a rien ici-bas qui soit absolument parfait. Et il faut aussi savoir que tout n'est pas désespérément imparfait. Un disciple de Jésus a un regard de foi sur tout. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela nous montre bien que c'est aussi par la foi que nous devons considérer ce qu'est notre perfectionnement. Or, nous pouvons accepter avec gratitude, en tant qu'enfants de Dieu, que nous sommes la plus grande œuvre de ses mains, mais, frères et sœurs, il faut avoir l'intelligence de comprendre bibliquement que nous sommes une œuvre en cours. Nous sommes l'œuvre de ses mains, mais nous sommes une œuvre en cours. Quand nous comprenons l'amour de Dieu qui a expié nos fautes, alors on cesse d'avoir peur qu'il puisse être un juge dur et critique. Quand nous comprenons l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, nous avons l'assurance que Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 17. Et vous êtes dans le monde, vous êtes donc dans le cas. Et nous comprenons qu'il nous faut du temps et une démarche pour progresser. En lisant le livre d'Enoch, on comprend bien que tout a été préparé d'avance. Une immense prophétie qui raconte l'histoire depuis Adam jusqu'au trône blanc. Et on voit bien que Dieu a tout préparé d'avance et que l'histoire n'est pas que notre petite histoire personnelle, mais qu'elle commence avec Adam, qu'elle se terminera au jugement et que nous sommes là-dedans et que c'est une progression, que c'est en cours. Depuis Adam, Dieu a fait des alliances différentes, il a donné des clés, il a donné des lois, il a donné des principes, des ordonnances. Et ça, tout ça, ça a formé l'histoire de l'humanité. Et notre humanité personnelle, elle est aussi composée de plusieurs dispensations. Nous avons d'abord, premièrement, notre passé éternel, notre passé... Le passé éternel de notre esprit qui va ensuite retourner vers Dieu, selon Ecclésiaste. Donc nous avons notre passé éternel, le passé éternel de notre esprit. Et puis nous avons la réception d'un corps, nous avons reçu un corps, nous sommes venus naître ici-bas. Nous avons eu 12 années d'innocence. Hein, c'est à l'âge de 12 ans que nous devenons devant Dieu responsables. Et puis, pour beaucoup, il y a eu des temps de ténèbres, c'est-à-dire nous étions des brebis perdues. Et puis, il y a eu la conversion, c'est-à-dire le passage par la porte. On a vu la porte, Jésus dit « Je suis la porte », on a vu la porte, on est passé par la porte. On s'est repenti, on a pris conscience de l'existence de Dieu, de son amour pour nous. Et puis derrière cette porte, on a découvert le chemin étroit, la vie chrétienne. Et puis on marche, on progresse, on va de progrès en progrès, de temps en temps on tombe, on s'assied, on se relève, on se remet en marche. Il y en a qui rétrogradent, mais rien n'est perdu, ils peuvent se remettre en marche. Et puis à la fin, on va mourir. On va aller dans le sein d'Abraham si on est sauvé. Je crois que ce soir, là, enfin en ce moment, alors que vous êtes en train d'écouter, ben vous êtes des gens sauvés, vous aimez la parole de Dieu, vous aimez Jésus. Vous êtes en chemin vers la perfection, mais vous êtes en chemin dans le perfectionnement. Et puis après la mort, après un séjour dans le sein d'Abraham, eh bien il y aura la résurrection, c'est-à-dire votre esprit sera de nouveau joint à votre corps, qui sera très différent. Vous voyez, c'est une œuvre qui est en cours, comme je vous dis. Et puis après, il y aura le jugement pour vos œuvres, pour vos récompenses, et puis il y aura la sacralisation. Vous voyez que tout ça, c'est un chemin, c'est une progression. Seul notre Sauveur a vécu ici-bas une vie parfaite, lui seul. Et pourtant, quand même, il nous a dit qu'il a dû apprendre, il a dû progresser pendant son expérience mortelle. Il a dû apprendre, croître. Alors il a appris, grâce à son expérience mortelle, la Bible dit l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes. Ah. Et puis alors, un jour, dans le sermon sur la montagne, il nous a commandé d'être parfaits. On trouve ça dans Matthieu 5, 48. Alors, il faut connaître les mots. Et le mot que Jésus a employé, il peut être traduit par complet. Il faut être complet, ou achevé, ou pleinement développé. Voilà ce que veut dire ce mot-là qu'il a employé. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous demande de devenir complet. Il nous demande que nous devenions achevés, pleinement développés, afin d'être rendus parfaits dans les vertus, dans les attributs divins, qui peuvent l'être dans la chair. Il ne nous demande pas des choses impossibles. Et c'est notre raison d'être, ici-bas, d'atteindre la perfection, le plus haut degré qu'on puisse atteindre, alors que nous sommes dans la limitation de la chair. Étant dans la limitation de la chair, vous pensez que vous pouvez être parfait comme Dieu? C'est cette marche en avant qui démontre notre perfection qui est en Christ. En Christ, nous sommes parfaits. Et notre modèle, c'est le Père. Alors, je pose une question. Il faut poser la question. Je dis, soyez parfaits comme le Père céleste est parfait. Par exemple, comment voulez-vous être parfait comme votre Père céleste est parfait en omniscience, en omniprésence? Vous voyez bien que Jésus ne nous demande pas l'impossible. Il demande le possible. C'est l'incompréhension de ce que signifie être parfait qui peut aboutir au perfectionnisme. Et le perfectionnisme, c'est épouvantable. Le perfectionnisme, ça crée une attitude, un comportement qui transforme un désir qui est admirable, le désir admirable d'être bon, et ça transforme ce désir admirable en un combat complètement irréaliste d'être parfait maintenant. Le perfectionnement, ça peut engendrer l'anxiété, voire l'insomnie, le découragement, la dépression, et très souvent la méchanceté. Alors, être méchant par amour, hein. Des parents qui exigent de leurs enfants qu'ils soient parfaits, hein, parce qu'ils les aiment tellement, mais ils leur mènent une vie épouvantable. C'est de la méchanceté, finalement. Ce sentiment peut chasser la paix intérieure. Ce sentiment peut chasser la paix dans une famille. Ce sentiment peut chasser l'assurance que le Seigneur Jésus veut que nous ayons. Alors, pratiquement, comment est-ce qu'on vit ça? Eh bien, le disciple de Jésus, il faut le savoir, peut être obéissant sans être parfait. Un disciple, il peut mesurer le, la réussite de sa vie envers Jésus et envers son Église, envers la famille, etc., par le niveau d'engagement qu'il a à aider les autres. On peut mesurer. C'est beaucoup plus sain que l'attitude des perfectionnistes qui se croient dans l'échec parce qu'ils ne sont pas les premiers partout. Hein. Être perfectionniste, c'est vouloir être le premier partout, c'est le meilleur. Avec le Seigneur, on apprend qu'il est parfaitement acceptable de faire de son mieux, de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et que ce n'est pas toujours possible d'être le meilleur. Tes forces ne sont pas mes forces. Fais de toutes tes forces déjà. Alors soyez déterminés. Commencez par regarder ce qui va bien. Déterminez-vous à regarder ce qui va bien. Frères et sœurs, la foi reconnaît que grâce au repentir, grâce au pouvoir de l'expiation, nos faiblesses peuvent devenir notre force. Nos faiblesses peuvent devenir notre force. Tes faiblesses peuvent devenir tes forces. Parce que tes péchés peuvent être réellement pardonnés et vaincus. Vous savez, il y a un exemple merveilleux, tout simple. C'est le mariage. Les mariages heureux ne sont pas le résultat de l'union de deux personnes parfaites. Dans la réalité, c'est le dévouement et l'amour. Tout ça, ça grandit quand deux personnes imparfaites avancent en faisant du bien, en faisant le bien, en aidant, en encourageant, en pardonnant. Un jour, quelqu'un a demandé à une femme de pasteur, « Mais quel effet ça vous fait d'être la femme de ce pasteur si extraordinaire ?» Et cette femme a dit, « Mais je n'ai pas épousé un pasteur. J'ai épousé un homme, oui, qui est dévoué à l'Église, mais c'est un homme, je n'ai pas épousé un pasteur. » Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, qu'avec le temps, mari et femme progressent ensemble, individuellement et en couple. Eh bien, c'est la même chose dans la vie communautaire. C'est la même chose dans la vie de l'Église. C'est la même chose dans la vie au travail. C'est la même chose dans tout. L'attente du conjoint parfait, l'attente des études parfaites, du travail parfait, de la maison parfaite, c'est une attente qui est longue et solitaire. Alors, ne laissez pas le doute engendré par des attentes perfectionnistes entraver votre progression. Alors, vous êtes accablé, vous êtes anxieux, posez-vous la question suivante. Est-ce que ma définition de la perfection ou de la réussite est fondée sur les doctrines de l'amour expiatoire du Sauveur ou sur les critères du monde ? Posez-vous cette question. Est-ce que je mesure la réussite ou l'échec par le Saint-Esprit ou par les critères du monde? Vous qui êtes fatigué, qui êtes épuisé physiquement, émotionnellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Commencez par dormir. Alors, vous me direz, ah bon, mais bien sûr, reposez-vous. Reposez-vous régulièrement. Un disciple qui fait les choses régulièrement. Prenez le temps de manger. Faites-vous plaisir. Détendez-vous. Prenez conscience qu'être occupé, ça ne veut pas dire être digne. Et être digne, ça ne nécessite pas d'être parfait. Puis vous qui avez peur de l'échec et qui remettez toujours à plus tard en vous préparant exagérément, soyez assurés, soyez rassurés qu'il n'est pas nécessaire d'éviter les activités qui sont difficiles et qui pourraient vous permettre de progresser considérablement. Puis, il y a l'impatience. L'impatience, elle ralentit la foi. La foi et la patience, ça doit faire bon ménage. Je vais vous donner une phrase, je vous en ai quelques-unes, mais la première, elle est vraiment très importante. Je vais vous demander de méditer ça sérieusement, pas simplement au sujet de la paresse, mais vous remplacez le mot paresseux par toutes sortes d'autres choses. Et puis voilà, écoutez bien cette phrase et méditez-la, écrivez-la et méditez-la, pensez-la. Écoutez, il fait beau là en ce moment, c'est l'été, sortez, allez dans un bois, mettez ce papier avec cette phrase écrite sur un tronc, quelque chose, et méditez ça. Écoutez cette phrase. Nous pouvons cesser d'être paresseux sans courir plus vite que nous n'en avons la force. C'est bien, non? Une autre encore. Nous pouvons trouver notre vie en la perdant pour la cause du Sauveur. Matthieu 10, 39. Encore une autre, si vous voulez. Nous pouvons ne pas nous lasser de faire le bien, tout en prenant le temps qu'il faut pour être régénéré spirituellement et physiquement. Galates 6, 9. Nous pouvons ne pas nous lasser de faire le bien, mais nous pouvons nous lasser de faire le bien si nous ne prenons pas le temps de nous reposer, de nous régénérer, de passer un temps normal en famille, normal avec les frères et sœurs, normal. Normal. Jésus ne nous demande pas l'impossible, il nous demande le normal. Ce qui est dans les normes de notre chair. Pas plus. Pas moins, évidemment, mais pas plus. On ne peut pas faire ce qu'on ne peut pas. Comme le dit cette phrase que je vous ai donnée là tout à l'heure, nous pouvons cesser d'être paresseux sans courir plus vite que nous n'avons de force. Méditez-la bien, tordez-la dans tous les sens, mettez d'autres mots à la place, des mots principaux, et vous allez voir combien il y a une grande sagesse là-dedans. Vous savez, notre Sauveur nous invite à aller à sa rencontre et à la rencontre de ce que nous sommes dans les lieux célestes en lui. Eh bien, nous y allons. Il y a des moments bien, puis il y a des moments moins bien, il y a des moments où il faut travailler plus, il y a des moments où il faut s'arrêter, il faut se reposer, il faut se détendre, il y a toutes sortes. Et il nous promet que si nous faisons ça, sa grâce nous suffira. Est-ce que vous le croyez? Souvenez-vous toujours qu'à ceux qui sont fatigués et chargés, Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du repos. Seigneur Jésus, nous venons à toi encore ce soir. Nous avons entendu ta parole. Maintenant, nous voulons, Seigneur Jésus, venir à toi dans un moment de silence, de tranquillité, en t'invitant à panser les plaies et à permettre que nous puissions avoir l'intelligence de laisser cicatriser ces plaies avec le temps, la foi, et la patience, sachant que tu veux toujours le meilleur pour tes enfants. Merci Seigneur de nous donner d'être intelligents spirituellement, de nous reposer sur toi, tout en marchant jour après jour sur ce chemin du perfectionnement jusqu'à arriver à cette perfection qui se trouve en toi. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. À bientôt, mes frères et sœurs. Dieu vous garde.